Ce qu'on constate au quotidien, c'est que la peine de prison est tout à fait contre-productive en matière de sécurité et qu'il y a d'autres réponses, pas forcément pénales d'ailleurs, à inventer à des actes qui posent problème dans la société.
Le récent projet de loi sur la réforme pénale a relancé les débats sur l'efficacité de la politique du tout carcéral. Pour en parler, on a rencontré une personne de l'OIP, Observatoire International des Prisons. C'est une asso indépendante des pouvoirs publics qui travaille à la promotion et la défense des droits de l'homme en prison et qui milite aussi pour le développement des alternatives à la prison. Anne Scherl est coordinatrice de l'OIP dans la grande région pénitentiaire Nord-Pas-de-Calais, Picardie-Haute-Normandie. Elle commence par évoquer la situation des prisons en France, situation caractérisée notamment par une forte surpopulation.
La surpopulation, effectivement, c'est un problème endémique, alors qui touche les prisons françaises. On n'est pas les seuls en Europe, hein. C'est un problème qui est assez partagé. Mais voilà, en France, ça fait des années et des années que cette question majeure est pointée du doigt et dénoncée par toutes les instances de contrôle nationales, internationales, et qu'on ne voit aucune solution se dessiner. Aucun gouvernement n'a véritablement voulu prendre à bras le corps ce problème qui est derrière ce mot, hein, il faut bien comprendre ce que ça signifie en termes de violation des droits de l'homme, en termes d'atteinte à la dignité humaine. Nous on a des témoignages chaque jour, hein, sur des personnes qui nous crient la souffrance que ça représente. Hein. Il faut bien s'imaginer ce que ça signifie d'être à trois dans une cellule prévue pour un, comme à Béthune par exemple, hein, où on est à 215% de taux d'occupation. Voilà, ça signifie l'absence totale d'intimité. On ne peut même pas se lever tous ensemble dans la cellule. Les toilettes, bien souvent, ne sont pas séparées, donc on fait ses besoins au vu au sud de tout le monde. Bien souvent, les conditions d'hygiène sont déplorables. Il y a des moisissures, des défauts d'aération, etc. Donc voilà, c'est des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles, finalement, les personnes disent mon état de santé, mon équilibre psychologique est en danger, quoi. Sans compter que cela crée des tensions entre les détenus, mais aussi vis-à-vis du personnel, quoi. Ça détériore complètement les relations interhumaines et ça débouche sur des violences, bien souvent. Donc voilà, c'est tout ça ce que ça veut dire la surpopulation. C'est quelque chose d'extrêmement grave aussi pour une institution qui, rappelons-le, est quand même censée incarner le respect de la loi, quoi. C'est extrêmement contre-productif du point de vue pédagogique pour les personnes qui le subissent, qui disent « oui, j'ai fait une erreur, j'ai violé la loi, mais je ne dois pas pour autant subir un tel traitement, être traité pire qu'un animal », parce que bien souvent ça ressort, hein, dans les discours, il y a des comparaisons avec les chiens sont mieux traités, on est dans un poulailler, on est dans un chenil. Voilà, la surpopulation, c'est tout ça, et moi, c'est vrai que en travaillant depuis des années à l'OIP, c'est vrai qu'on est stupéfait de voir que les gouvernements successifs ne prennent pas la mesure de ce problème à la hauteur de l'importance qu'il représente.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de la situation de la prison de Béthune et de sa surpopulation. Mm-hmm. Quelle est la situation générale des prisons dans donc la grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie?
C'est tristement stationnaire. Enfin bon, on a connu des records quand même en nombre de détenus. Alors les taux de suroccupation sont à peu près équivalents à ceux qu'on pouvait connaître il y a quelques années, en 2007, 2008, où il y avait eu également des pics assez importants. Mais concrètement, là, aujourd'hui, enfin au mois de juin, les dernières statistiques dont on dispose, c'était donc pour 8000 et quelques places de prison, eh bien, il y avait 9500 personnes détenues. Principalement, donc, les établissements les plus surpeuplés, c'est forcément les maisons d'arrêt. Les centres de détention sont épargnés puisque l'administration observe un certain numerus clausus. Mais voilà, il y a des établissements pénitentiaires qui observent des taux de suroccupation. Donc la maison d'arrêt de Béthune, c'est la plus suroccupée, donc à 215%. Juste derrière, on a le quartier maison d'arrêt de Longuenesse à 193,4%. Et donc la maison d'arrêt d'Arras, c'est 145%. Sachant que la maison d'arrêt d'Arras, elle présente aussi la particularité d'avoir des cellules, entre guillemets, dortoirs, donc avec 5, 6, voire plus lits, ce qui accroît la promiscuité et les tensions. Dans les autres établissements, bon, c'est des cellules individuelles ou doubles, mais qui sont suroccupées avec quelquefois des matelas par terre. Là, en France, globalement, il y a 57 000 et quelques places pour presque 68 000 détenus.
Bah, la prison, c'est des tuyaux aux chiottes devant ton pote. T'as besoin de quoi que ce soit, faut écrire 48 heures à l'avance, même si t'as une rage dedans, faut la prévoir. Et quand même, il y a un petit peu d'amitié, tu trouves des petits moments où tu rigoles par la fenêtre, des matchs de foot.
On arrive au sujet d'actualité, puisqu'il y a une réforme pénale sur le feu. Une réforme dont l'OIP attendait beaucoup.
Mais c'est vrai que, ce que vous dites, c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on a une ministre de la Justice qui prend en compte les études qui existent sur la délinquance, sur la récidive, et qui ne se contente pas d'avoir un discours d'affichage populiste qui reprend les clichés de la sévérité, du fait d'être impitoyable, de traiter de manière impitoyable les voyous. Donc, c'est vrai que c'était assez enthousiasmant, d'autant qu'il y a eu tout un processus de consultation des associations, des syndicats, etc. Et puis aussi des scientifiques, pas forcément français, parce qu'en France, on ne mène pas beaucoup d'études sur la question. Hein. Mais voilà, il y a un grand nombre de travaux qui ont été menés sur la récidive. Et le processus de la conférence de consensus prenait toute cette diversité, toute cette richesse scientifique qui existe sur le sujet pour éclairer la décision des pouvoirs publics. Donc c'était vraiment bien engagé. Là, c'est vrai qu'avec les annonces qui ont été faites vendredi, 30, c'est un peu la déception, et on constate que finalement le gouvernement se laisse un peu intimider par les discours populistes qui sont tenus par l'opposition. L'aspect très intéressant de cette réforme, c'est la création d'une peine de probation, donc que le gouvernement appelle maintenant contrainte pénale, hein, sûrement pour montrer que c'est pas laxiste, hein, suite aux critiques qui ont été formulées par l'opposition. Bon, c'est la même chose, et c'est une appellation réductrice, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la peine de probation, c'est une véritable peine, et qui se déroule dans la communauté, dans la société, et qui permet donc de ne pas couper les liens d'insertion dont peut disposer déjà la personne, qui peuvent être quelquefois extrêmement ténus. Donc il s'agit de première chose de ne pas nuire à la situation de la personne, et de la condamner donc à un certain nombre d'obligations, d'interdictions, tout en l'accompagnant et en la soumettant à un suivi adapté à ses problématiques, qui lui permettent de pouvoir travailler sur les problématiques qui la conduisent à commettre un certain nombre de délits, mais aussi en lui permettant de pouvoir s'insérer au mieux, de façon à prévenir la récidive sur le long terme. Donc c'est une mesure extrêmement intéressante, et il faut quand même marteler que toutes les études au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau international, démontrent que une personne qui est condamnée à une peine de probation, eh bien, récidive beaucoup moins. Il y a des écarts dans les taux de récidive d'environ 20 à 30%. Donc ce n'est absolument pas une mesure laxiste, c'est une mesure intelligente. Voilà. Il faut rappeler que surtout pour les toutes petites peines de prison, l'incarcération peut être tout à fait dévastatrice et contre-productive et générer elle-même de la délinquance. Surtout quand on voit comment les personnes sortent sans aucun accompagnement. Quand il n'y a pas d'accompagnement social, ben bien souvent, les personnes n'ont pas véritablement le choix que de se retourner vers les contacts, mauvais contacts qu'elles avaient à l'extérieur ou qu'elles ont fait à l'intérieur de la prison. Donc la peine de probation, voilà, ça permet de maintenir la personne dans la communauté et de construire autre chose avec elle, qui lui permettent de sortir d'un parcours délinquant.
Donc ça reste dans le projet de loi alors ?
Ça reste dans le projet de loi. Alors ce qu'il faut déplorer quand même, c'est que le gouvernement préconise que ça ne s'applique qu'aux peines inférieures à 5 ans, alors que il n'y a pas véritablement de raison d'empêcher que ça s'applique aux délits qui seraient passibles d'une peine supérieure. C'est un petit peu un recul à voir ce que cela deviendra lorsque ce sera examiné par le Parlement.
Dernière partie de notre entretien avec Anne Cherel, coordinatrice de l'OIP Nord-Pas-de-Calais-Picardie Haute-Normandie, toujours à propos du projet de loi Taubira, projet de loi de lutte contre la récidive. On aborde cette fois l'aspect lié aux peines planchers.
Il faut savoir que les peines planchers, c'est une mesure extrêmement contre-productive qui a fait augmenter la durée des peines en France. On est passé de 8,2 mois de prison en moyenne à 11 mois. Et c'est surtout une mesure qui n'a pas d'efficacité en termes de sécurité publique. C'est quelque chose qui ôte énormément de possibilités aux juges d'individualiser les peines. L'individualisation des peines, c'est un principe fondamental et qui garantit l'efficacité de la justice. Donc ça contraint énormément les juges. Nous, on a vu un certain nombre de situations tout à fait absurdes. Des personnes qui, finalement, parce qu'elles ont récidivé, se retrouvent en prison pour des vols tout à fait minimes. La suppression de ces peines planchers était effectivement un objectif très important. Il faut savoir que les États-Unis, par exemple, qui ont adopté ce système il y a de nombreuses années, reviennent dessus. Donc, parce qu'ils constatent que ce n'est pas efficace en termes de sécurité publique. Si on aboutit à la suppression des peines planchers, ce sera un grand progrès. Maintenant, il y a une annonce en parallèle qui a été faite de revenir sur les possibilités d'aménagement de peine. Donc, il faut savoir que la droite avait voté une loi permettant l'aménagement des peines jusqu'à 2 ans de prison pour les primo-délinquants et 1 an pour les récidivistes. Là, l'annonce du gouvernement, c'est d'abaisser ces seuils-là à 1 an pour les primo-délinquants et à 6 mois. Donc de réduire les possibilités d'aménager les peines des petits délinquants. Et c'est une mesure qui est tout à fait déplorable dans la mesure où ça va forcément augmenter l'afflux de tout petits délits en prison et donc alimenter la surpopulation. Donc d'un côté, on supprime les peines planchers, mais on abaisse ces seuils, ça n'a pas de sens. Il faut une politique cohérente et on peut déplorer quand même qu'à travers ces petits reculs, ces grands reculs qu'on voit parsemer ce projet de loi, que finalement le gouvernement se laisse intimider par des discours populistes sans essayer de faire l'effort de la pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique, en expliquant que les mesures qui sont envisagées, les peines de probation, les aménagements de peine, toutes les alternatives à la prison, sont positives en termes d'une meilleure lutte contre la récidive et d'une meilleure garantie de la sécurité. L'opinion publique, à chaque fois qu'il se passe un drame, demande à ce que l'on enferme tout le monde, demande des peines extrêmement sévères, exemplaires, etc. Mais en même temps, nous avons aussi une mission de sensibilisation, d'information. On organise des débats, on essaie de susciter le débat public sur ces questions extrêmement importantes. Et on s'aperçoit aussi que les citoyens, lorsque on leur explique les tenants, les aboutissants, les études scientifiques qui ont été faites, ils sont en même de comprendre aussi, quoi. Donc c'est dommage que à la fois le gouvernement n'ait pas ce courage politique de faire cet effort de pédagogie, mais aussi que les médias ne fassent pas plus d'informations éclairées sur ces sujets. Parce que bien que la France n'ait pas fait un travail scientifique extrêmement approfondi, qu'on soit véritablement en retard sur la question, eh bien, il existe des études au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau international, qui sont extrêmement claires sur le sujet. Donc il n'y a pas à dire est-ce qu'on est laxiste, pas laxiste, angélique. Non, nous des fois quand on entend des discours qui prônent le tout carcéral, mais c'est ces discours-là qui sont en déconnexion avec la réalité. Est-ce que les gens se posent la question de savoir comment une personne qui est maintenue dans une cellule une prison à 215% de taux d'occupation, qui dort sur un matelas par terre, qui est humiliée, pour lesquelles le droit n'est pas respecté, est-ce qu'elle se demande comment cette personne elle va ressortir et est-ce que véritablement elle va avoir envie de respecter les règles communes? Nous, ce qu'on constate au quotidien, non, c'est que la prison, là, en plus, dans des conditions attentatoires à la dignité humaine dans lesquelles sont placées les personnes, c'est quelque chose de tout à fait déplorable pour la sécurité. C'est un gâchis social et humain. Également aussi pour les personnels qui eux, sont aussi soumis à l'obligation, finalement, de gérer une situation ingérable, de gérer des flux, et qui se prennent aussi en pleine figure toute la violence de ce système, quoi. Donc c'est aussi un gâchis pour les personnels qui pourraient employer leurs compétences de manière beaucoup plus constructive pour la société et valorisante pour eux.
Anne Chorol, coordinatrice de l'OIP, Observatoire international des prisons, dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Haute-Normandie, interviewée le 2 septembre dernier à Lille, dans leurs locaux situés place Sébastopol. L'OIP, c'est aussi un site internet www.oip.org. L'OIP publie des communiqués, des rapports sur les conditions de détention, et puis aussi une revue « Dedans, dehors ». Le dernier numéro en date contient un excellent dossier, témoignages et photos intitulé « Ils sont nous, parcours de vie d'anciens détenus ». Voilà, vous retrouverez cette interview sur le site internet de PFM, www.radiopfm.com, complété par d'autres petits bouts d'interviews, les questions de la santé et du travail en prison, la question des fouilles à nu, et puis la prison, combien ça coûte. À noter que le projet de loi passe prochainement devant l'Assemblée nationale, donc tout ça est à suivre avec attention.